Mercredi prochain, nous parlerons du coffret Agnès Varda avec Hélène Fleckinger, spécialiste du cinéma féministe. Shut the Piano Player, un film de Fernando Trueba et Javier Mariscal. C'est un entretien avec le réalisateur. L'Homme d'Argile, un film d'Anaïs Télène. Greenhouse de Lee Seului. Enfin, La Petite, un film de Guillaume Niclou. Très très bonne semaine et bien sûr, tenez bon.
Vous avez vu, on a à peine changé, viré le ministre de l'Éducation nationale, enfin je ne sais plus où il est passé, obtenu un nouveau Premier ministre, qu'il y a une vague de froid qui s'abat sur la France. Moi je vous dis, c'est effectivement des incapables ces gens-là. Non, en fait pas du tout, bien au contraire, le nouveau gouvernement sont des gens d'une incroyable efficacité, puisque depuis qu'ils sont arrivés, eh ben, il ne se passe plus rien à Gaza. Les militaires ont fini de jouer dans les couloirs qu'ils ont trouvés au-dessous. Les fous d'odieux sont allés recoller les têtes. Enfin, il me semble en tout cas, puisque les journalistes ne nous en parlent plus, pour ainsi dire. Il se passe plus rien non plus en Ukraine. Non, il faut savoir quand même si on a une nouvelle ministre de la Culture et si c'est un portefeuille de je ne sais qui ou je ne sais quoi. Enfin, bref. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, quelques petits, je me souviens aussi, aussi quand même, histoire d'ouvrir ce magazine. Je me souviens que c'est lors de la fête de l'Aïd que Moumou, en fait Mouloud, est devenu végétarien. Et il avait même commencé à chercher les coordonnées de L214 sur son téléphone. Je me souviens que j'ai pas voulu croire Jocelyne, la voisine de la rue Jean Jaurès, quand elle m'a dit « Tu sais, Ti, quand tu seras grand, tu chercheras même plus à grimper le long des grilles qui longent le square. Et tu chercheras même plus à grimper le long des arbres couchés le long de la route. Oh, » moi, je l'ai pas cru. Je me souviens que Céline se parfumait avec une fragrance si tenace que même les copies qu'elle me rendait en étaient imprégnées. Quand je les sortais du paquet pour les corriger, je savais déjà que c'était sa copie que j'allais avoir sous les yeux. Je savais aussi en gros quelle note elle allait avoir et je savais que le jeune prof que j'étais allait commencer à rêvasser. Je me souviens que les devoirs de physique avaient lieu dans l'amphithéâtre des classes prépa et que les étudiants avaient décoré les murs avec des couvertures de Charlie Hebdo et de Harakiri. Résultat, j'avais un gros dégueulasse de Rezer, un adjudant Cronenbourg de Cabu et un cul du professeur Choron qui veillaient sur moi quand je calculais des périodes d'oscillation de putain de ressort. Je me souviens de portes fermées, chaleur conservée. Je me souviens qu'en 1972, Xavier Deniau s'est retrouvé ministre par erreur, Pierre Messmer ayant demandé au service de Matignon « Pompidou et moi, on est d'accord pour Deniau à l'outre-mer, convoquez-le pour le prochain conseil des ministres ». Et c'est ainsi que Xavier Deniau fut appelé à la place de Jean-François et il resta quand même ministre pendant 8 mois. Je me souviens de « Kindimo ne consent pas », écrit lettre à lettre en format A4 sur un mur aveugle rue de la Villette. Je me souviens que la vieille Georgette, la voisine de chambre de ma mère à l'EHPAD, se promenait partout dans les couloirs avec un numéro de télé 7 jours en indiquant avec fierté « Tu vois, lui, c'est mon fils » en montrant le chanteur tout sourire sur la couverture. Le temps de ma visite, elle me le montra 5 fois « Tu vois, lui, c'est mon fils » et elle le montra même à son propre fils qui était passé la voir, un agriculteur au regard triste et désespéré. Je me souviens de Anatole Delannoy, Léonce Duvillard, Mathias Emmerich, Henri Évrard, Constant Farineau, Marius Favrel, des noms attrapés au hasard le long du monument aux morts de la guerre de 14 au niveau du Père Lachaise. En fait, non, je m'en souviens pas. Je les ai recopiés, ces noms-là. Mais ces gars-là avaient 26 ans. Leur mère est morte depuis. Leur fiancée est morte depuis. Ils n'ont pas eu d'enfant, alors qui s'en souvient ?
Poi, 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 on part à Gaza, bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Poi, 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 le Hamas, c'est des barbares. Nous, on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir. Poi, 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 on a visé l'hôpital. C'est par humanisme, pour que les blessés, plus jamais mal. Poi, 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 j'ai entendu du bruit. Désolé si j'ai tiré, j'ai cru que c'était une rêve partie. Poi, 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 on a coupé l'eau courante. On va vous doucher, on n'a pas le mot phosphore à l'essence. Poi, 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 vous êtes dans des tunnels. On va les gazer et sceller les portes à la truelle. Poi, 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 nous on fait pas d'otages. À part 2 millions à ciel ouvert derrière du haut voltage. Poi, 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 mais vous pouvez prendre la fuite. Promis, vous reviendrez en même temps que les réfugiés de 48. Poi, 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 on a détruit vos maisons. On en reconstruira des mieux quand s'y installeront nos colons. Poi, 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 on était là il y a 2000 ans. T'as qu'à retourner en Espagne où vous étiez il y a 1000 ans. Poi, 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 Dieu est dans notre camp. La preuve, j'ai jamais vu un rabbin qui était musulman. Poi, 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 nous c'est pas pareil. On était terroristes, mais contre les Anglais. Pas Israël, poi poi poi, eux c'était des colons. Ça n'a rien à voir, nous on est chez nous, on a raison. Poi poi poi, le Hamas c'est fini. Jusqu'à ce que leurs enfants soient grands et de haine remplis. Poi poi poi, critiquer Netanyahou. C'est antisémite, c'est anti-France, c'est pas bien du tout. Poi poi poi, la paix maintenant et Free Palestine. C'est antisémite, djihadiste et islamo-fasciste. Poi poi poi, votez LFI. C'est antisémite, pas une opinion mais un délit. Poi poi poi, le ballon d'or à Benzema. C'est antisémite, faut le donner. Et Adolev Aziza, poi poi poi, les chansons de Vaquette, c'est antisémite, hein. poi, 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 avoir été contre l'apartheid, c'est du racisme anti-blanc. Ah non, merde. Non, là, c'est pas pareil. Poi, 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 on part à Gaza, bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Poi, 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 le Hamas, c'est des barbares. Nous, on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir.
Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène magazine de créatures radiophoniques en guise de créatures autour de la table. Je regarde s'ils sont bien emmitouflés ou pas. Ah, il y a quelques pulls quand même. Allez, présentation, on commence par Ariel comme d'hab. Hein.
Pourquoi bon, j'aimerais m'appeler Zorro, comme tout le monde. Oui. Bonjour auditeurs, auditrices, bonjour Nicolas, bonjour nos compagnons de route. Donc Patrick Denis va vous accompagner cet après-midi pour un ou deux textes. On va voir si elle a le temps d'en lire un troisième. Voilà. Sophie.
Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui j'ai amené des textes de Anne Bouchara que j'en avais déjà lu il y a quelques mois. Des poèmes et un bout de nouvelles.
Michel.
Je suis venu avec les œuvres littéraires de Marcel Schwab.
Marcel
Schwab. J'espère que je prononce bien.
Alors, Sergueï Essénine terminera la lecture de son journal d'un poète. Il y aura aussi toujours dans les poèmes à dire, une nouvelle section qu'on va commencer. Avec des poèmes d'Arthur Rimbaud sélectionnés par Daniel Gélin. Un poème de Papy Jean et une surprise selon le temps imparti. Un auteur qui succédera à Sergueï Essénine. Je vous dirai après lecture qui c'est.
Ok. On va attendre. Je commence. Alors, c'est un poème inachevé de Patrick Denis. Petit retour sur moi-même. J'ai mêlé ma jeunesse aux ferrailles des villes. J'aimais les ponts, les entrepôts, l'odeur du vieux goudron qui parfumait les wagons des gares de triage. L'horizon limité par les tours de béton, le métal hurlant des véhicules sur les boulevards périphériques, les gares surtout, et leurs trains de repos rangés côte à côte en longs serpents silencieux. J'étais utile au mouvement des rues bondées, trottoirs des marchés ouvriers, attente résignée des fins de journée sous les abribus, sans mêler de longues cohortes du dimanche sous les odalisques brunes, au fronton des immeubles, des beaux quartiers. J'aimais la Seine et son eau grise et les vieux ports et les vieux quartiers de Bordeaux. Aix-en-Provence, j'arpentais le cours Mirabeau, la valise de ma guitare à bout de bras. Musicien voyageur, les berges de la Sèvre nantaise, où je restais des heures, fasciné par la nage des ragondins, chez un ami dont l'enclos d'une propriété du centre-ville. Niort, le passage du commerce, le porche de la rue du Gros Horloge à Rouen, les bras levés des grues des quais. Toulouse, chaude et humide comme une femme. Montréal, les boîtes à chansons de la rue Sainte-Catherine. Alger, les parfums subtils et doucereux qui baignaient la Casbah. Liège, où mon idiotie touristique m'a fait chercher des heures une brasserie moule frites. Toulon, ville brutale, curieusement dominée par la montagne des gros cerveaux. Et ça se termine comme ça. Patrick Denis.
Assis dans un fauteuil de croco synthétique, je regarde la feuille de galvanoplastique pendre au bout de la tige, caoutchouc fibré de ma plante élastique imitato breveté. Relax, enfin décontracté.
relax, enfin décontracté. D'un geste nonchalant, j'allume la télé. Pour les informations, Giscard d'Hérault filmé. Tout va bien, tout va mieux, c'est le vrai paradis. Encore un tout petit peu et on va faire envie. Relax, enfin décontracté. Relax, enfin décontracté. On va mettre des fleurs sur toutes les machines. On va peindre en couleur les murs de nos usines. On va réinventer la participation. On sera intéressé à visser nos boulons. Ah oui, mais toujours relax. Enfin décontracté. Relax. Enfin décontracté. On va même rénover la pointeuse archaïque. Bientôt t'ira pointer au son de la pop musique. Les Beatles te diront que c'est l'heure de bosser. Pour ton gentil patron, tu t'écriras oui. Relax. Enfin décontracté. Relax. Enfin décontracté. Même les agents, mon vieux, vont changer de tenue. Ils auront les cheveux longs et des Lewis pointus. Des badges sur le casque, make police, notre folie. On peindra leur matraque en style Vasarely. Relax, enfin décontracté. Relax, enfin décontracté. Même la bombe atomique qui nous rend si morose aura son champignon parfumé à la rose. Le jour où dans ta ville ça sentira trop bon. T'as pas à te faire de bile. Ça sera les radiations. Alors ce jour-là, tu seras définitivement, mais définitivement, relax. Enfin décontracté. Relax. Décontracté. Relax. Enfin décontracté. Relax. Et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Et pour l'éternité.
Et pour l'enchaînement, évidemment, cette chanson est due à Patrick Denis. Elle est interprétée ici par Alain Rault, R-A-U-L-T. Et pour l'enchaînement, ben, c'est qui s'y colle?
Je vais poser une question. Après la séquence « Je me souviens », tu as passé un chanteur Et t'as pas dit qui c'était ?
Ah oui, c'est Tristan Edern-Vaquette, docteur en sciences, vicomte de Gribeauval, prince du bon goût, ancien collaborateur de cette émission au travers des célèbres, je ne sais pas si c'est célèbre finalement, billets du Vaquette, des horreurs qu'il débitait dans le cadre de ce magazine.
Eh bien, Sophie ?
Alors,
deux masculins, deux féminins.
J'avais dit après l'autre. En septembre, il me semble, des poèmes de Anne. Il y a un extrait d'une de ses nouvelles. Et donc, je vais vous redire certains textes qu'elle a écrits. Et je vais commencer par sa présentation. Donc, elle s'appelle Anne Bouchara. Et elle nous dit « J'ai 49 ans et j'écris depuis que je sais écrire des poèmes et des histoires courtes. Certains de mes poèmes sont publiés depuis 2012 dans la revue Intervention à haute voix. Et j'en partage d'autres sur mon compte Instagram, Anne Bouchara. Je publie certaines de mes nouvelles sur mon site annebouchara.fr. Voici 25 ans que je vis à Paris, entre le parc Montsouris et la Butte aux Cailles, comme j'ai l'habitude de dire. Un endroit entre, mal défini, un peu caché, loin de l'agitation, au calme, on y entend les oiseaux, tôt le matin, en toute saison. Donc là, un recueil de mes poèmes intitulé Paris va être publié au printemps dans la revue Intervention à haute voix. Et voici en avant-première une sélection de poèmes du recueil. Donc là, ça c'est moi, Sophie, qui parle. J'en ai choisi 8. Et donc je vais commencer par ceux qui évoquent le parc Montsouris. C'est l'automne, pluie fine, aucun enfant, parc Montsouris. Les tables et les chaises du restaurant, rangées, définitivement. Quelques sportifs courent sous la pluie, après les jours enfouis. Pardon. Je vais enchaîner avec un deuxième. Ils sont tous très courts. Hier soir, parc Montsouris, assis dans l'herbe, sur ton visage, les grains de beauté se promènent.
Parc Montsouris, c'est le domaine où je promène mes anomalies, où je me décrase les antennes des mesquineries de la vie. Y a même un kiosque à musique où des militaires jouent à moitié faux. Je vis pas ma vie, je la rêve. Le soleil se lève et moi aussi. C'est comme une maladie que j'aurais chopée quand j'étais tout petit et qui va pas me lâcher avant j'en crève. Le facteur, le coursier et les balles de nuit, les éboueurs m'interpelle. Hey Jacques, qu'est-ce que tu fous encore debout à cette heure-ci? Je vis pas ma vie, je la rêve. C'est comme une maladie que j'aurais chopé tout petit. Quand le parc Montsouris ramène sa fraise, les matins où le soleil vous mord la peau, le dos collé à la chaise, les pieds au bord de la pièce d'eau,
ça me rappelle cette valse autrichienne que papa jouait en rentrant du boulot. Mon cœur est déchiré, séparé du tien. Je me sens comme un routier entre loup et chien. La vie, c'est ce qui vous tombe dessus. Devant le comptoir du tabac, on sourit. Les clodos me livrent la marchande de journaux, m'offrent un pot, m'interpellent. Et Jacques, et tu viens de te lever là ou tu rentres te coucher? Je vis pas ma vie, je la rêve. Le soleil fait la grève et moi aussi, c'est comme une maladie que j'aurais chopée quand j'étais tout petit et qui va pas me lâcher avant qu'elle m'achève.
Là, effectivement, il n'y a pas besoin de désannoncer. On reconnaît le chanteur et on reconnaît le thème. Le parc Montsouris. Michel. Michel.
Alors, d'accord. Je vais vous lire un texte de Marcel Schwab. Ça s'appelle Blanche la sanglante. Alors, c'est dans un recueil de textes qui s'intitule... Voyons voir comment ça s'appelle déjà. Je ne sais plus, les rois au masque, les rois au masque d'or. Voilà. Donc Blanche la sanglante. Après que Guillaume de Flavie se sentit là des guerres et de la politique, il voulut augmenter son héritage et prendre femme. C'était un grand homme et fort, large des épaules, mamelu et velu de poitrine, posant ses deux mains sur deux chevaliers armés. Il les faisait plier jusqu'à terre. Il chaussait ses housseaux et passait lui-même dans la glèbe, à travers la boue, frappant de sa main épaisse le dos des hommes crottés qui se courbaient parmi les sillons. Sa face carrée était rouge par le sang qui lui battait toujours les tempes et les os de viande craquaient entre ses mâchoires. Près de Reims, il vit un jour chevauchant à la lisière de ses prairies les champs de Robert d'Œuvrebruck. Il mit pied à terre et entra dans la grande salle de la maison. Les huches rangées le long des murs, vastes, propres à cacher les gens, avaient un air minable. La table du ménage était boiteuse, les ferrailles du foyer rouillées, la broche enduite d'un demi-pouce de crasse. On voyait çà et là un tablier de cordonnier, des haleines, des marteaux plats, et dans un coin un homme, jambes croisées, tirait l'aiguille sur une chemise de grosse toile. Mais accroupi sur les pierres de l'âtre, le regard étonné, clair, des cheveux d'or semés autour de sa figure pâle, une petite fille tournait sa tête vers Guillaume de Flavie. Elle pouvait avoir 10 ans. Sa poitrine était plate, ses membres grêles, ses mains menues, et la bouche était celle d'une femme tranchée dans la face pâle comme une coupure saignante. C'était Blanche d'Œuvrebruck. Son père était devenu peu de jours avant, par succession, vicomte d'Assy. Le dos rond, la barbe longue, les mains rendues aptes seulement aux outils, il avait, en considérant ses fiefs, l'aspect surpris et inquiet d'un homme qui manie un objet dangereux. L'écuyer anglais, Jacques de Béthune, qui servait sous Luxembourg, était déjà venu demander la fille à son père. Son père incertain ne savait s'il fallait attendre mieux. Les terres de succession étaient grevées de 300 000 écus. L'ancien vicomte d'Assy en devait de sa personne bien 10 000. Peut-être les Anglais ou les Luxembourgeois s'arrangeraient-ils de cela. Mais ce fut Guillaume de Flavy qui emporta la petite Blanche. Il paya les dettes pour garder les terres. L'ayant épousée par juste mariage, il promit de ne l'épouser vraiment que dans 3 ans. Ainsi, homme de grande mine, il mit la main sur les fiefs d'Assy et sur un être grêle, sauvage, enfant. 3 mois après, la petite Blanche, les sourcils froncés, l'œil pâle, errait dans le château comme une chatte malade, ayant connu les épousailles cruelles de Guillaume de Flavy. Elle ne comprenait pas, et ne pouvait comprendre. Elle était bien différente d'âge et de forme. L'homme était dur pour elle comme pour son barbier. Quand il s'était essuyé la bouche à table du revers de la main, il jetait les viandes dont il ne voulait plus à la figure de ce barbier obséquieux. Il hurlait et jurait continuellement, ayant gardé le gouvernement de son vin et des mangeailles. Il ramenait les plats devant lui, laissant au debout de la table le père et la mère de Blanche, une mère qui avait déjà la tête branlante et des os qui lui faisaient des encoignures au corps. Elle vivota quelque temps, presque sans manger, presque sans parler, ancienne, inintelligible, devint blafarde et mourut. Le père, ayant dépéri comme s'il avait pris du poison, signa des actes pour Flavy. Après boire, il avait abandonné les terres, chargé de dettes, et se frottait les mains en chantonnant pour sa bonne rente viagère. Mais ne mangeant plus, il voulut avoir l'argent, cria faiblement, pauvre créature effarée, composa de son écriture tremblée un rôle de plainte pour le roi. Guillaume saisit les papiers au passage, le vieux gémit, les valets le mirent en basse-fosse, et, l'ouvrant au soleil, 1 mois plus tard, ils trouvèrent un cadavre sec, les dents fixées dans un soulier dont les rats avaient rongé la pointe. La petite Blanche devint extraordinairement gourmande. Elle mangeait des sucreries à en mourir, et sa bouche sanglante était gorgée de pâtes rondes et de crème. Penchée sur la table, les yeux près des viandes, elle dévorait rapidement avec un regard toujours limpide. Puis elle buvait de grands traits de vin Pinot ou Morillon, la tête en arrière. On voyait passer sur sa figure une onde de plaisir. Elle renversait un gobelet de vin dans sa bouche ouverte largement au-dessous. Le gardait sans l'avaler, les joues gonflées, et le faisait glisser d'elle dans le visage des convives, comme une fontaine vivante. Chancelante, après le repas, elle se levait, et prise de vin, elle se mettait debout contre le mur comme un homme. Ses façons plurent à Bâtard d'Orbandac, noir et malfaisant, dont les sourcils se joignaient en ligne au-dessus du nez. Il venait souvent vers Flavy, dont il était le parent, et dont il attendait impatiemment les terres. Étant souple, nerveux, les jarrets d'acier, les poignets forts, il regardait d'un air narquois le corps pesant de Guillaume. Mais la petite Blanche n'en était pas touchée. Il lui parla, dès lors, avec délicatesse de ses robes. S'étonna de lui voir encore sa toilette de noces, car il la trouvait grandie depuis. Il cita de petites bourgeoises qui avaient des robes d'écarlate, des malines ou des fins verres fourrés de bon gris, à grandes manches avec un chaperon dont la longue cruche laissait pendre un tissu de soie rouge et verte qui traînait jusqu'à terre. Elle écouta comme si on lui parlait d'un costume de poupée. Alors, le bâtard d'Orbandac lui fit raison. Le verre en main, et la fit boire et rire, il lui donna des sucreries, raillant son mari, de sorte qu'elle éclaboussait de vin comme un oiseau qui se baigne en battant des ailes dans une ornière pleine. Le barbier, dont la face longue portait des marques d'os de gigot, se penchait entre eux. Et il mit sa tête avec celle du bâtard, ils complotèrent de prendre le château, que ce serait le bâtard qui l'aurait, la femme étant à merci de chacun pour son innocence, par son innocence, pourvu qu'elle eût la clé de la cave et du garde-manger. Un soir, Guillaume de Flavy, trébuchant sur le seuil, se heurta la figure. Il se fit une plaie qui lui ouvrait la joue et le nez. Il cria pour avoir le barbier, qui apporta presque aussitôt des toiles ointes d'une singulière odeur. La nuit passant, la figure de Guillaume enfla. La peau était blanche et tendue, avec des traînées brunes. Les yeux proéminents pleuraient sans cesse, et la blessure avait le hideux aspect des chairs mortifiées. Toute la matinée, il resta dans un fauteuil, hurlant de douleur. La petite Blanche semblait terrifiée tant qu'elle oublia de boire, et elle regardait Guillaume de l'autre bout de la chambre avec ses yeux transparents, tandis que sa bouche très rouge remuait faiblement. À peine Guillaume fut-il monté dormir, veillé par l'écuyer Bastoigne, que le château retentit de mille bruits légers. Blanche écoutait, l'oreille à la porte, un doigt sur les lèvres. On entendait des heurts étouffés, des cottes de mailles, de sourds chuchotements d'armes, le guichet de la grosse poterne qui grinçait et en grésillement, inaccoutumé dans la cour. Quelques lueurs incertaines de falots passaient et repassaient. Cependant, les torches de résine dans la grande salle où les pièces de viande étaient encore dressées brûlaient avec une flamme droite et un long filet fumeux à travers l'air calme. Blanche monta doucement de son pas d'enfant vers la chambre de son mari. Il dormait sur le dos, sa figure enflée, entourée de bandages, tournée vers les poutres supérieures. Bastoigne sortit parce que Blanche allait se mettre au lit. Elle s'y faufila en effet et saisit la hideuse tête sous son bras en la flattant. Guillaume respirait avec difficulté et souffles inégaux. Alors la petite Blanche se jeta en travers, prit l'oreiller, le maintint solidement sur la figure emmaillotée et fit glisser un Judas, ordinairement scellé au-dessus du lit. La tête noire du bâtard y passa. Il rampait avec précaution. D'un bond, il fut à genoux sur la poitrine de Guillaume et lui asséna sur la tête deux, trois coups avec un bâton fendu qu'il traînait. L'homme émergea des draps et un cri horrible jaillit de sa bouche tuméfiée. Mais le barbier, sortant sous les sangles, saisit à bras-le-corps Bastoigne qui ouvrait la porte et le bâtard trancha la gorge de Guillaume avec une langue de bœuf qu'il avait à la ceinture. Le corps se dressa et roula par terre, entraînant la petite Blanche. Elle resta sur le sol, gisant sous le cadavre chaud, recevant le sang tiède qui lui coulait dans le cou parce que sa robe était prise sous son mari agonisant et qu'elle n'était pas assez forte pour se dégager. Le barbier, prévenant, aida la petite Blanche à se relever pendant que le bâtard se ruait à la fenêtre. Et comme Blanche d'Œuvrebreuc, vicomtesse d'Assy, était religieuse, elle essuya sa bouche et la figure de son mari avec son chaperon de Picardie, le lui mit sur sa face gonflée et dit de sa voix enfantine trois pater et un ave. Parmi les cris des hommes du bâtard d'Aubrandac qui cherchaient les coffres d'avoine.
Avec une bêche à l'épaule, avec Alain des brins douchants, avec Alain des brins douchants, avec une bêche à l'épaule. Avec Alain un grand courage, il s'en allait trimer au champ. Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Martin. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Martin. Gagner le pain de sa vie, de l'aurore jusqu'au couchant, mais de l'aurore jusqu'au couchant, pour gagner le pain de sa vie. Il s'en allait bêcher la terre, en tous les lieux, mais par tous les temps. Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps.
Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Martin, sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant, ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant. Il retournait le chant des autres, toujours méchant Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Martin, pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, mais creuse le temps. Martin, quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, de labourer son dernier chant. Quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, il creuse à lui-même sa tombe, faisant vite en se cachant. Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Martin, pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Pauvre Martin, pauvre misère. Quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, de labourer son dernier chant. Quand la mort lui a fait signe de labourer, de labourer son dernier chant. Il creuse à lui-même sa tombe, faisant vite en se cachant. Mais Martin, pauvre misère, oh, creuse la terre, creuse le temps. Ouvre Martin, pauvre misère, mais creuse la terre, creuse la terre. Creuse à lui-même sa tombe, en faisant vite en se cachant, en faisant vite en se cachant. Il creuse à lui-même sa tombe, en faisant vite en se cachant, en faisant vite en se cachant. Et s'il y est en disant rien dire pour ne pas déranger les gens. Mais Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Ouvre Martin, pauvre misère, dort sous la terre, dort sous le temps. Avec une bêche à des poules, avec Alain les brins douchants, avec Alain les brins douchants, avec une bêche à des poules, avec Alain les brins douchants, avec Alain les brins douchants, avec Alain main grand courage, ils s'en allaient trimer au champ. Mais Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. Oh, pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps, mais 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 le temps.
Et voilà, pour rester dans une ambiance... Non, Schwab, c'était quand même assez glauque, je dois reconnaître. Non. Et pour rester dans une ambiance, on avait choisi un petit traditionnel breton de la région de Les Ardrieux, puisque c'est pauvre Martin de Brassens, c'est que Brassens avait sa maison dans l'anse de Les Ardrieux, interprété par le groupe Katémé, et ça tourne effectivement vachement bien dans cette version qui prend la pêche à la fin. Allez, c'est à qui maintenant ?
Elsa.
Alors, je conclus le journal d'un poète de Sainte-Calais-Sénine avec l'ultime poème qu'il a écrit avec son sang la nuit même de sa mort, le 27 décembre 1925, dans sa chambre de l'hôtel d'Angleterre à Leningrad. Glissa ce billet dans la poche d'un ami venu le voir. Le chansonnier Vertinsky en tira une chanson célèbre. Alors, ça dit... Adieu mon ami, adieu mon tendre ami que je porte en mon cœur, une séparation prédestinée et promesse de revoir prochain. Adieu mon ami, sans geste, sans mot, ne sois ni triste ni chagrin, en cette vie mourir n'est pas nouveau, mais vivre certes n'est guère plus nouveau. Alors, je veux bien croire que Sergueï Sénine se soit suicidé, mais comment est-ce qu'il a pu... écrire un billet avec son propre sang pour ensuite le mettre dans la poche d'un ami venu le voir, et surtout que l'ami en question ne se soit pas rendu compte qu'il était blessé, parce que selon la théorie officielle, bon, il s'est pendu après s'être ouvert les deux poignets. Alors mon opinion personnelle, c'est qu'il a été suicidé, et d'ailleurs beaucoup d'amis artistes qu'il côtoyait penchaient pour ça, parce qu'il avait beau avoir des problèmes, il aimait la vie malgré tout. Donc ainsi se conclut
le livre Le journal d'un poète.
Comme le fruit tombé sans avoir pu mûrir, la faute à l'homme, la faute au vent. Et comme l'homme qui sait en se voyant mourir, qu'il n'aura plus jamais de temps. Un jour de plus il aurait pu chanter, faute au destin, faute à la chance, faute à ses cordes qui s'étaient cassées. Son chant s'appellera silence. Il peut toujours le commencer. Nul ne viendra jamais danser. Nul ne le reprendra en cœur. Et il n'aura jamais rien fini, à part cette blessure au cœur et cette vie. Pourquoi ? Je voudrais savoir pourquoi, pourquoi. Elle vient trop tôt, la fin du bal. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol. Comme ces disputes commencent le soir, faute à la nuit, faute à l'alcool. Et dont il ne restera rien plus tard que quelques mégots sur le sol. Il aurait tant voulu frapper, pourtant. Faute au couteau, faute à la peur. Il n'aura fait aucun combat au sang, juste le temps d'un peu de sueur. Lui qui aurait voulu tout savoir, il n'aura même pas pu tout voir. Lui qui avait l'amour au corps, pour la seule qu'il aurait gardée, il a rendu sa barque au port, sans l'embrasser, sans la toucher, juste y penser jusqu'à la mort. Pourquoi ? Je voudrais savoir pourquoi, pourquoi. Elle vient trop tôt, la fin du bal. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol. Il écrivait comme on se sort d'un piège, faute au soleil, faute aux tourments. Et comme il prenait pour papier la neige, ses idées fondaient au printemps. Et quand la neige recouvrait sa page, faute au frima, faute à l'hiver. Au lieu d'écrire, il essayait, courage, d'attraper les flocons en l'air. Mais aujourd'hui, il est trop tard, il n'aura pas pris le départ, et son souvenir ne sera que la chanson d'avant la lutte, et l'évadé qui n'aura pas atteint son but. Pourquoi ? Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi elle vient trop tôt, la fin du bal. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol. C'est les oiseaux, jamais les balles.
Certains ont reconnu effectivement une chanson de Vladimir Vysotsky, Le vol arrêté, interprété ici par Yves Desrosiers. Alors, dans le cadre de notre magazine, quand on est au milieu, c'est l'équivalent des pages roses dans le dictionnaire, et c'est donc une page blanche, mais on commence par une petite enveloppe proposée par Evelyne.
Parce que... Il... Ode aux enveloppes. Une enveloppe cachetée a échu entre mes mains. Elle venait d'ailleurs, d'un autre âge, d'une autre époque. Elle avait plus de 60 ans. J'avais l'impression d'être devant une tombe. Alors, pour me faufiler dans cet ailleurs, j'ai réfléchi que j'étais moi-même grisonnante et qu'en soustrayant un peu de mon âge, je pouvais m'aligner sur n'importe quelle bulle de temps, aussi exploitoire soit-elle. Tribulation enfantine, toujours mettre un peu de soi dans une enveloppe. En tout cas, une espérance, un rêve, un sentiment, un peu de mystère scellé au bout d'une pensée. Comment ne pas être ému en ouvrant une enveloppe? Comment ne pas croire voir s'échapper quelques cris, quelques soupirs d'aise? Enfin, je suis ouverte, dit l'enveloppe miraculée. C'est Pâques. Elle n'eût pas été ouverte que le temps ne se fût pas arrêté. Mais le temps est un mime, il se joue de nos reflets et nos songes. Qu'importe, puisque l'enveloppe scellée, abandonnée au moment de son ouverture, lâche un grand soupir et à la lumière du jour, libère son message. Il jaillit soudain comme une puce sous l'oreille. Il se moque du temps qui a passé. Il le célèbre. Il ancre ses songes sous le jeune avenir comme croupi un nuage en dentelle. Il fend l'air comme une libellule. Il faut, balustrade d'un mot, sur une toute petite échelle, faire scintiller quelques brindilles échappées d'un amour, d'un aveu, d'une crainte enveloppée, cachetée. Que le mystère jaillisse du bec d'une enveloppe qui prendrait la forme d'un avion en papier. Quoi ? Oser déflorer une gentille enveloppe, rester vieille fille par surabondance de nuages, je les veux subsister à tous les courants d'air, tous les petits élans de l'âme qui obéissent à quelques rites. L'enveloppe, le timbre, l'adresse et l'effort d'écrire. Oui, je l'écoute, cette chaîne de lettres entrelacées qui davantage que des ombres faillotent contre le mur du temps. À travers une coulure du temps ou sa moulure, écoutez une enveloppe qui craque comme un poussin sort de sa coquille. Songez aux yeux hagards du destinataire qui va soit l'ouvrir, soit l'abandonner dans un coin. Subir cette hallucination. Je suis l'enveloppe. Alors, être là, au moment de l'ouverture. Ouf. C'est tellement étrange de s'envoyer soi-même. Avec le recul, n'est-ce pas, la distance nécessaire entre l'expéditeur et le destinataire pour que la réception ait lieu. Quoi ? Encore regarder un oiseau emporter en son bec un rameau, comprendre qu'il voyage aussi, qu'il travaille, qu'il fait son nid. À travers des lettres, c'est le frémissement de brindilles que je surprends sur les lèvres de n'importe quel scribe, et je ne puis m'empêcher de souffler à tous ceux qui ne se servent plus de leurs mains pour écrire. Quel dommage! Vous avez quitté l'oiseau en vous, de vos gestes, de vos caresses. Vous ignorez que vos doigts peuvent chanter à toute allure sur du papier, qu'ils peuvent réciter au-delà de la coulure d'une date, car elles connaissent l'étoile du jour et de la nuit avant de se poser. Cet oiseau qui vient se poser sur votre épaule, entendez-le comme la confidence d'un messager qui a voyagé avant d'arriver jusqu'à vous. Remerciez-le. Voilà, c'était l'ode aux enveloppes.
Merci. Je commence. Il était une feuille. Il était une feuille avec ses lignes. Ligne de vie, ligne de chance, ligne de cœur. Il était une branche au bout de la feuille. Ligne fourchue, signe de vie, signe de chance, signe de cœur. Il était un arbre au bout de la branche, un arbre digne de vie, digne de chance, digne de cœur. Cœur gravé, percé, transpercé, un arbre que nul jamais ne vit. Il était des racines au bout de l'arbre, racines dignes de vie, vigne de chance, vigne de cœur. Au bout des racines, il était la terre, tout court, la terre, toute ronde, la terre seule au travers du ciel, la terre, Robert Desnos.
Le soleil de la rue de Bagnolet n'est pas un soleil comme les autres. Il se coiffe avec un seau, il se baigne dans le ruisseau, tout comme les autres. Mais quand il me caresse les épaules, c'est bien lui et pas un autre, le soleil de la rue de Bagnolet. Le soleil de la rue de Bagnolet n'est pas un soleil comme les autres. Il se coiffe avec un seau, il se baigne dans le ruisseau, tout comme les autres. Mais quand il me caresse les épaules, c'est bien lui et pas un autre, le soleil de la rue de Bagnolet. Qui conduit son cabriolet d'ailleurs qu'aux portes des palais. Un soleil, soleil, ni beau ni laid, le soleil d'hiver et de printemps. Le soleil tout drôle et tout content, le soleil de la rue de Bagnolet. Pas comme les autres, pas comme les autres.
Ben oui, une deuxième dose de Desnos, le soleil de la rue de Bagnolet. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être appris à l'école, celle-là, comme poésie, quand on dit à l'école. Puis après, ça peut se transformer en chanson, par la grâce, par exemple ici, de Gérard Pithiot. Allez, deuxième baril d'Ariel.
Deuxième partie. Camille. Ce piano qui tisse la nuit aux arpèges de Debussy, ce piano, ses notes d'airain, l'écho des ciseaux de Rodin, ce piano qui sculpte l'absence, ces marteaux qui frappent en cadence le marbre blanc de la musique. Ce piano, noir et pathétique, joue son lamento nostalgique. Ce vieux souvenir de famille chante pour Camille. Cette terre boueuse d'automne, cette terre femme qui se donne, d'où sa mère, elle se dessine au four solaire qui la patine. Cette terre violente et soumise, cette matière jaune et grise, cette géométrie de signes, cette prolétaire au sang noble, cette porteuse de vignobles, cette terre onctueuse et belle, chante pour Claudel. Ces oiseaux qu'on dit de passage, ces oiseaux, mouvement et sauvage, ces oiseaux, mouvement, lumière, cet envol des roches et des pierres, ces corbeaux sur les bras d'un chêne, du géant percé, se souviennent la grande statue foudroyée. Le soulier de satin brille, oublié par la jeune fille, la cendrillon d'un jeu cruel, Camille Claudel. Ce haut mur, ces pierres sans âme, cette blessure, ce cri, ce drame, ces portes qu'on a refermées, cet asile qu'on dit d'aliéné, ces deux mains posées sur la table, comme deux oiseaux lamentables, ces doigts qui ne s'envolent plus, ce credo d'emmurée vivante, cette vertigineuse pente, ce mouvant de valse triste, statue d'artiste. Écrit à Passenans, 1er novembre 1988.
La petite drôle de fille avec des yeux trop grands pour ne pas être bleue. La petite drôle d'anguille avalait en courant la forêt quand il pleut. Et la terre sur laquelle elle jetait son corps comme on s'endort sur l'autre. Ce lit où la vie se vautre, elle jurait que ses mains y défieraient la mort. Paul, mon petit Paul, tu vois ces branches que la pluie dessine sur le ciel. Il m'arrive quelquefois d'imaginer la nuit des arbres artificiels. Et je sais très bien qu'un jour j'animerai la pierre de mon ciseau caresse. Oui, le marbre a sa faiblesse et je vais lui donner la forme de l'amour. Camille, la vie, c'est le seul vrai mélod. Ça part d'un grand éclat de pleurs, ça rit avec des trémolos. Camille, la vie, c'est un superbe enfer. Et Dieu est un curieux sculpteur qui tue les statues qu'il préfère. La petite drôle femme au fond de l'atelier du grand monsieur Rodin. La petite drôle de dame en habit d'écolier ignorait le dédain et faisait sourire une âme aux lèvres de granit au milieu du grand vide où le temps sculpte des rides aux étangs de champagne et au front d'Aphrodite. Oh monsieur Rodin, le feu, je veux pouvoir l'enfermer dans la pierre. Oh monsieur Rodin, mes yeux, pourquoi me font-ils mal le soir sous mes paupières? La mort, je n'ai pas peur d'elle, mais j'ai peur que l'amour nous oublie en chemin. Nous les amants immortels, toi Auguste Claudel, moi Camille Rodin. Camille, la vie, c'est le seul vrai mélo. Ça part d'un grand éclat de pleurs, ça rit avec des trémolos. Camille, la vie, c'est un superbe enfer. Et Dieu est un curieux sculpteur qui tue les statues qu'il préfère.
Étrange concomitance, puisque c'est en 1989, là cette fois-ci, et non pas 88, comme le cas de Patrick Denis, c'est en 1989 que Claude Lemel écrivit cette chanson, musique de Jean-Pierre Bourterre, sur un album de Reggiani qui est un petit peu passé à côté. Album Reggiani 89, sur lequel Claude Lemel et Reggiani rendaient hommage à quelques personnages célèbres. Si je vous dis juste les titres des chansons, à vous de retrouver les noms qui manquent derrière ses prénoms, Pablo, Charlie, Adèle, Jean-Baptiste, Camille, Noël, Maximilien, Michel, Serge et les petits destins. Radio Libertaire 89,4 MHz.
Je vais continuer avec deux autres poèmes courts de Anne sur Paris, des poèmes à coloration estivale. Dans le premier, nous retournons au parc Montsouris. Rue Gazan, orange, les hauts vents donnent au quartier des airs de station balnéaire. Et le poème suivant a pour environnement la butte aux cailles. Lorsque je descends la rue d'Aviel à vélo, les cheveux dans le vent, en bas, il pourrait y avoir la mer.
L'autre. Vas-y.
On est allé à Guignol, au parc Montsouris. Chaque fois que j'y vais, je rigole comme un ouistiti. Il y a mis à front, puis le gendarme, et Guignol bien sûr. Puis une gentille petite dame qui passe ses chaussures. Il y avait les marionnettistes qui étaient bien plantés et qui jouaient comme des artistes à sonoriser. Ils étaient peut-être deux, trois personnes pour tout raconter. Premier rôle, les petits bonhommes, ah, c'était le pied. On est allé à Guignol, au parc Montsouris. Après-midi, un peu folle, avec des amis. Tous les mômes se fendaient la poire comme des bossus. Même les parents rigolaient à se pisser dessus. C'était une super ambiance, j'y revenirai. Elle est bien jolie l'enfance, ainsi évoquée. Elle est bien sympa la France, dans les marionnettes. Nous sommes nos amis en transe, il nous faut reconnaître. On est allé à Guignol, au parc Montsouris. C'est peut-être que des fariboles, mais c'est bien joli. À l'entracte, on a eu droit à des dragibus, des fraises, tagala, des gratos sans plus. On s'en est mis plein la lampe, on s'est régalé. On était un peu comme dans un temple, divin obscurité. C'était reparti pour une heure à nous éclater. Aux gendarmes et aux voleurs, Guignol a gagné. Avec son bâton en bois, la mine raclée. Au képi, qu'avait la loi et l'autorité. On est allé à Guignol, au parc Montsouris. Chaque fois que j'y vais, je rigole comme un ouistiti. La semaine prochaine, je cours voir Guignol encore. Au jardin du Luxembourg, dans un beau décor.
C'est fou, le vieux monsieur qui chante, on dirait qu'il a, voix, qu'il a la voix d'un chanteur de ma jeunesse, on dirait Renaud.
Sophie.
Ce que Anne voit de son appartement lui inspire aussi des poèmes, comme celui-ci, toujours très court. Une fenêtre éclairée et quelqu'un derrière, qui doit préparer son dîner. Autour du rectangle éclairé, il n'y a que du noir, comme si cette fenêtre flottait dans le ciel. Je vous en dis un deuxième. Un poème inspiré par un trajet en bus le long des quais de Seine. Quai du Louvre, immeuble haussmannien, derrière les rideaux blancs sales, sous un abat-jour ancien, une petite lampe à la lumière fantomatique.
Thank you. voire même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots. Je m'assois sur tes bancs, je regarde tes monuments. Je trinque à la santé de tes amants. Je laisse couler ta scène sous tes pans. Ta rengaine toujours après la peine.
Je pleure dans tes taxis quand tu brilles sous la pluie. Est-ce que t'es belle? J'adore ta tour Eiffel. Au moins elle, elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressens le chagrin. Ça me fait un mal de chien.
Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé. Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Paris, tout nu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé
sur ton pavé.
Je me réveille dans tes bras, sur tes quais, y'a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes ciné, je me perds. Mon quartier, je m'y retrouverai jamais.
Je nage au fil de tes gars et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère. Tes pigeons manquent pas d'air. Et moi, de quoi j'ai l'air?
Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé. Paris, tu m'as. Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés.
Même si ma vie tourne la nuit, qu'elle me laisse sans m'y, sans.
Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois dans tes cafés.
Même si ma vie tourne la nuit, qu'elle me laisse sans m'y, sans m'y, barani.
Oui, quand Sophie m'a dit que dans la thématique il y aurait le mot Paris, j'ai pas pu m'empêcher, fallait que je glisse celle-là. Parole et interprétation pour une des voix de Marc Lavoine, et puis soit de Massy à l'autre voix, j'en suis totalement amoureux, c'est d'une beauté avec ses arrangements derrière. Et le compositeur de cette chanson, c'est Fabrice Aboulker, lui aussi j'en suis amoureux, il est tellement bien quand il fait des choses, quand il fait des musiques au piano et tout et tout. Allez, pendant ce temps-là, dans le studio, ils étaient en train de tirer à la courte paille pour savoir qui devrait causer.
Sophie, encore un message.
J'ai encore plein de choses. Hein.
Vas-y, vas-y.
D'autres poèmes de Anne ont été inspirés par Notre-Dame, comme celui-ci, qui est très très court, je préviens. Au-dessus de Notre-Dame de Paris, le soir, dans l'été naissant, rose et mauve, des avions ont raturé le ciel. Et bien sûr, un poème sur le métro. Une rose. Place d'Italie. Quai du métro. Ligne 6. Une vieille femme vend une rose, déjà fanée. Une vieille femme avec un fichu sur la tête et un manteau gris élimé. Qui dit qu'elle vend une rose qu'elle a dans la main.
une rose déjà fanée. Il y a une musique après.
Où est passé Paris, ma rose? Paris sur scène l'a bouclée. Son paradis en portant la clé, les nonchalants du long des quais, Paris ma rose. Où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Jeannin, l'avenue? Et le chemin vert, qu'est-il devenu, lui qui serpentait près de la Bastille? Où est passé Paris la grise? Paris sur brume la mouillée. Les partis, Paris l'oublié, parti sur la pointe des pieds, Paris la grise. Le vent d'aujourd'hui, le vent des deux rives, ne s'arrête plus au marché aux fleurs. Il s'en est allé, le joyeux farceur, emportant les cris des filles naïves. Où est passé Paris la rouge, la commune des sans souliers? C'est perdu vers Aubervilliers ou vers Nanterre, l'embourbé, Paris la rouge. Où est-il passé Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on voyait que lui au trou des chemises? Où est passé Paris que j'aime, Paris que j'aime et qui n'est plus.
J'espère effectivement que celle-ci vous l'attendiez aussi, Paris ma rose de Henri Gougaud, avec sa voix d'occitan et son petit accent qu'on aime bien aussi quand il nous raconte des contes.
Alors, un poème de Papy Jean, suivi de la dite surprise dont je vous ai parlé. Alors, je l'ai intitulé ce poème sans titre numéro 34. Oh, les multiples fesses tièdes et affolées de la ville qui marche. Oh, les culs balancés au rythme des désirs inavoués. Oh, les yeux en flammes incendies des rues noires. Je marche, mes pas érectés et mes reins s'encastrent dans les porches qui sucent ma verge. Les murs sont tachés de sperme à hauteur de mi-homme. Je tiens dans ma poche la lampe fuselée qui éclabousse son jus les recoins sombres où les hommes s'aiment entre eux, citoyens honnêtes. Je n'ai jamais surpris de femmes. Les femmes ont peur de s'aimer en dehors des lits, dans les rues désertes. Les amours libres appartiennent aux hommes. Oh, ces filatures secrètes qui poursuivent les boulevards. Oh, les éclats de gorge sous les réverbères. Oh, les sexes d'hommes dans les mains d'hommes. Gère solitaire et grave, religieux de mes pèlerinages que nul ne peut savoir, dormeur peureux des nuits closes, savez-vous que des mains de sang caressent les murs tièdes des maisons qui brûlent, emprisonnées dans la gaine des ombres? Savez-vous que j'ai possédé tous les petits garçons qui s'échappent par les fenêtres? Les petites filles ne sortent pas la nuit. Les petites filles ont peur de l'amour qui n'est pas convenable. Donc, écrit à Paris en mai 1953. Et voici la dite surprise. Il était fragile comme une biscotte dans les mains d'un étrangleur. Sa taille et plus mince que la retraite des vieux. Celui qui parle à cœur ouvert est souvent invité à fermer sa gueule. Trop parler nuit, le jour aussi d'ailleurs. Il est givré comme un sorbet au calva. Les caisses de l'État sont aussi vides que les bourses à Don Juan à la sortie d'une boîte de Saint-Trope. Son compte en banque est bourré comme un teuton qui a passé la nuit à la fête de la bière. Il est jaloux comme un ruban adhésif. Il était plus viril qu'un étalon qui a sifflé une fiole de tabasco. Il était stérile comme une pompe à incendie dans le désert des Tartares, bandant comme un calvaire breton et aussi poilard que la porteuse de pain. On a souvent besoin d'un plus petit que soi pour lui casser la gueule. L'auteur de ses pensées, inscrit au début de son recueil, « Et s'il n'en reste qu'un, ce ne sera pas moi. » La réponse, Pierre Perret.
C'est un petit potier qui a une poupée et qui peut pas. Quelquefois il peut peu, mais souvent il peut pas. C'est un petit potier qui a une poupée et qui peut pas. C'est un petit piteux qui prend son pied à petits pas. Le cousin du petit potier qui a un long cou qui peut beaucoup et qui n'a pas de poupée a voulu se rattraper. Le cousin du petit potier qui a un long cou qui peut beaucoup la pique au petit potier tout dépité sans sa pépé. Le fils du petit cousin du petit potier qui peut souvent s'occupe à des appâts de la poupée de papa. Le fils du petit cousin du petit potier qui peut souvent la pique à son papa qui peut souvent mais pas longtemps. Le voisin du fils du cousin du potier qui n'arrête pas prit la place convoitée du cousin du potier. Le voisin du fils du cousin du potier qui n'arrête pas il laissa sa santé tant il eut tort de s'entêter. Le docteur du voisin du fils du cousin du petit potier gomme à gomina, leur pique à la nana. Le docteur du voisin du fils du cousin du petit potier finit le nirvana ratatiné dans un sana. Le contrôleur d'impôts mal dans sa peau qui boit des pots amoureux assidu avait tant attendu. Le contrôleur d'impôts mal dans sa peau qui boit des pots fut malade et perdu pour les doudounes à la dodu. Un amiral futé qui prenait le thé sur la jetée vit la poupée musclée et lui jeta ses clés. Un amiral futé qui prenait le thé sur la jetée en perdit ses galons dans un violon du vieux Toulon. Mais le geôlier âgé jouit déjà de l'ingénu et sur le bout du banc déroba ses rubans. C'est quand le geôlier âgé eut bien joui de l'ingénu après qu'il la troussa qu'elle prit son trousseau et trissa. Un petit gardien de la paix qui grimpait en faisant des paix en haut du Sacré-Cœur lui proposa son cœur. Un petit gardien de la paix qui grimpait en faisant des paix la viola en chantant ce qu'elle trouva très inquiétant. Un gynécologue lui dit tout de go c'est pas gay, on vous a abusé, faut vous faire épouser. La gosse à l'abandon exhibant son joli bidon dit j'y vais de ce pas, je connais très bien le papa. C'est un petit potier qui prend son pied à petits pas. Quelquefois il peut peu, mais souvent il peut pas. C'est un petit potier qui prend son pied à petits pas. Et ce petit potier a bien le droit d'être papa.
Ah oui, moi sur un des premiers indices, j'avais reconnu effectivement Pierre Perret. Allez, il nous reste 7 minutes avant, je ne sais pas si bulle noire ou bulle de rêve cette semaine. Alors Ariel, tu prends les verbes, Elsa, tu prends les adverbes, Michel, tu prends les noms, Sophie, tu prends les adjectifs, non, ou alors vous choisissez quand même, vous faites un texte.
Sophie. Alors dans ce cas, je vais lire le début d'une nouvelle. J'aurai pas le temps de lire à la suite, et si vous voulez lire la suite, vous irez sur son site annebouchara.fr. Anne, A-2-N-E, Bouchara, B-O-U-C-H-A-R-A. Ça s'appelle Les Deux Magots. Le bus 21 emprunte le boulevard Saint-Michel. C'est un matin de fin d'été et un matin de septembre. Le ciel bleu sculpte les immeubles beiges et les rend plus lumineux, presque blancs. Sous cette clarté, leur forme paraît plus nette, comme si l'on passait d'une image en deux dimensions à une vision en relief. Dans la rue, vue du bus, une fille qui porte un pull violet, des touristes en short boulevard Saint-Michel, beaucoup de monde aux terrasses des cafés de la place de la Sorbonne, un jeune homme à vélo qui porte des lunettes rectangulaires,
Un vieux prof, traînant un énorme cartable. Un monsieur un peu trop gros pour son costume gris clair. Des pharmacies et des librairies pour se soigner. Une femme qui porte des chaussures rouges. Je vais assister à la soutenance de stage d'une étudiante à la faculté de médecine, rue de l'école de médecine. J'aime la logique des noms des rues anciennes. Il fait toujours aussi beau lorsque j'en ressors. Je vais prendre le métro boulevard Saint-Germain pour aller à l'Institut Larolle. J'ai démissionné des laboratoires d'Arieux. Le RERB m'était devenu insupportable. À la terrasse des deux magots, les gens prennent l'air et le temps. Peut-être sont-ils écrivains, journalistes, comédiens. Peut-être sont-ils entrepreneurs. Ils ne sont certainement pas salariés. Il est 10h moins le quart du matin et à 10h moins le quart du matin, les salariés sont encore enfermés dans le vacarme et la puanteur des souterrains ou déjà dans leur bureau ou devant la machine à café. Si j'étais écrivaine, je serais assise à la terrasse des deux magots. Je trouve ce mot étrange, écrivaine. Il est plus rare qu'écrivain. Pourtant, il est sûrement plus juste, car on y entend le mot veine, qui nous rappelle la vanité de ce qu'on peut écrire. Écrivain est si courant qu'on a oublié qu'il contenait vin. Si j'étais écrivaine, je commanderais un expresso. Un serveur déposerait sur ma table un café, surmonté d'une fine mousse beige, dans une tasse blanche, posée sur une sous-tasse de la même couleur. Y serait déposée une cuillère à café en inox, dans laquelle se reflèterait la rue tout entière, un morceau de sucre de canne et un spéculoos.
Continue.
Je regarderai passer cette femme qui porte un manteau avec de gros motifs pieds de poule. J'écouterai le bruit des voitures. J'entendrai la conversation de ces dames âgées dont l'une dit « Ma petite fille a lu Proust et sa notice de sa machine à laver. » Ou peut-être n'aurais-je pas bien entendu. Je laisserai le temps se délier, puis je prendrai un deuxième café. Le deuxième café, synonyme de vacances. Le deuxième café, lorsqu'on n'a rien de prévu ou beaucoup plus tard. Le luxe extrême du deuxième café. Un soir, à la radio, un écrivain dit que si l'on veut vraiment être écrivain, on le devient. Cela me redonne de l'espoir, un matin de septembre, de prendre un deuxième café à la terrasse des deux magots. Que vais-je devenir lorsque j'aurai 1000 fois arpenté les couloirs du même métro? Lorsque j'aurai 1000 fois repris le métro du soir? Que vais-je devenir lorsque de nouveau fleuriront les arbres? Lorsqu'un nouvel été aura succédé à celui-ci? Le travail continue à soustraire le temps. Régulièrement, dans mon cahier, j'écris des listes de choses à faire. Aller chez le coiffeur, appeler Aurélie, faire un cake à la banane, parce que mes bananes ont trop mûri. À intervalles d'années plus ou moins réguliers, j'établis d'autres listes. Changer de travail, trouver un appartement, trouver un amoureux, devenir écrivaine. Comme si à chaque nouvelle décennie, je redémarrais mon âge adulte. La seule chose qui reste inaccomplie, c'est devenir écrivaine. Lorsque je publierai mon premier livre, la vie se déroulera peut-être telle la tige d'une planque recroquevillée en spirale qui se déploie soudainement, comme dans certains documentaires naturalistes filmés en accéléré. Le temps passe et des saisons se perdent. Les saisons perdues sont celles que l'on a laissées s'échapper, le temps qu'on a laissé s'évaporer sans y prendre garde. des saisons où on a trop rêvé. Ces saisons ne reviendront plus. Ce soir, en marchant le long de la rue de Tolbiac, de retour de l'Institut Larolle, je repense aux saisons perdues. L'automne a transformé ce trottoir en travaux, en chemin de boue. La neige a tout recouvert d'un nappage blanc. Le printemps a éparpillé sur les trottoirs les feuilles cotonneuses des acacias. La canicule a soufflé dans les rues de Paris un air irrespirable. Ce soir, rue de Tolbiac, l'air est doux et joyeux. C'est un vendredi soir. Le temps passe si vite que les années semblent se superposer. Je ne sais plus si nous sommes cette année, l'année dernière ou l'année prochaine. Comme chaque année, à cette époque-là, les journées raccourcissent, j'écris pour retenir le temps. Voilà déjà 15 ans que j'habite le quartier. 15 ans que je descends la butte aux cailles par la rue d'Avielle, à pied ou à vélo. La rue est si pentue que mon vélo prend de la vitesse. J'arrête de pédaler et l'air caresse mon visage. Mes cheveux se soulèvent légèrement. Lorsque je porte des boucles d'oreilles pendantes, l'air s'engouffre tout autour et y siffle, comme dans le mât des voiliers. Devant moi, vers l'ouest, le ciel rouge ou orangé m'annonce que le soleil se couche. Là-bas, derrière les grands arbres dont j'aperçois les cimes, il pourrait y avoir des dunes, il pourrait y avoir l'océan.
Radio Libertaire. dirty work day.